Place Info.
Bonjour Mathieu Arfelin.
Bonjour à vous.
Le Parlement européen a donc retoqué hier la candidature de Sylvie Goulard pour un poste de commissaire européen. Elle devait représenter la France. Qui est affaibli ce matin? Celui qui l'a proposé, donc le chef de l'État, ou alors la France?
Je pense que c'est d'abord l'Europe qui affaiblit ce matin, parce que ça nous éloigne des vrais sujets. On devrait être effectivement avec une Europe rassemblée, mobilisée sur tous les grands enjeux, le Brexit, sur la relance d'une politique climatique ambitieuse, sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est plutôt effectivement à gérer une crise. Donc moi, je crois que c'est surtout l'Europe qui est affaiblie dans cet incident-là.
La faute à qui ?
Il y a deux, à mon avis, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que, sans doute, que la France a sous-estimé l'importance de l'exemplarité. Et effectivement, sans doute plus développée dans d'autres pays, notamment dans le nord de l'Europe. Et effectivement, il y avait un certain nombre de questions autour de la candidature de Sylvie Goulard, autour de l'affaire en cours.
On vient de prendre une petite leçon de transparence.
Je crois que cette transparence, en tout cas, elle est là, c'est une exigence de plus en plus forte et il faut mieux en tenir compte à l'avenir. Donc il y a eu ça, effectivement, et puis il y a derrière une instrumentalisation politique, notamment du PPE, qui essayait avec cet épisode et le rejet de la candidature de Sylvie Goulard de prendre sa revanche, parce que il faut pas être dupe non plus que se jouent les équilibres politiques au niveau européen. Mais voilà, c'était un vrai processus de désignation avec un vote des parlementaires. Donc maintenant, il faut sortir de cette crise, que la France repropose un ou une nouvelle candidate. Mais effectivement, tout ça nous éloigne des vrais sujets pour l'Europe.
Celui qui a évidemment très mal pris ce résultat, c'est Emmanuel Macron, qui avait présenté la candidature de Sylvie Goulard. Il a réagi aussitôt hier lors d'une conférence de presse et vous allez voir qu'il a du mal à encaisser cet échec.
J'ai proposé trois noms à la présidente von der Leyen. La présidente von der Leyen m'a dit « Moi, je veux travailler avec Sylvie Goulard. » Mais moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission nommée, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre.
Il a besoin d'explications. Est-ce que l'explication de ce vote, c'est pas aussi une petite leçon du Parlement européen à l'endroit d'une certaine arrogance française ?
En tout cas, c'est un vrai vote et on voit d'ailleurs que le résultat est très nettement défavorable. Hein. C'est, je crois, 3/4.
Donc, c'est un échec personnel pour Emmanuel Macron ?
Moi, je n'utiliserai pas ces mots-là, mais je crois que l'Europe, c'est nous. Ce n'est pas la France contre l'Europe, ce n'est pas les pays contre l'Europe. L'Europe, c'est nous. Et effectivement, il faut qu'on arrive collectivement à dépasser ce genre d'incident. Donc voilà, il ne s'agit pas de voir aujourd'hui, clairement, c'est la faute d'un tel ou un tel. Il y a une exigence d'exemplarité. Il y a eu aussi des jeux politiques derrière. Mais en tout cas, il faut maintenant dépasser tout ça et nous concentrer sur les vrais sujets. Parce que moi, ce que je regrette, c'est que ça nous éloigne des sujets de fond.
Quel est le portrait robot de la personnalité qui doit remplacer Sylvie Goulard ?
Quelqu'un de consensuel, évidemment, de compétent sur ces thèmes. Et puis, on a vu l'exigence d'exemplarité qu'il faudra avoir maintenant sur l'ensemble des candidats portés par tous les pays à ce type de poste.
On entend, c'est le jeu d'ailleurs à chaque fois dans ce genre de circonstances, plusieurs noms qui commencent à circuler. Il y a celui de Ségolène Royal, elle fera une bonne candidate ?
C'est pas moi de répondre à ça, je crois.
Bon, je vais tenter un deuxième nom, ce sera le dernier. Laurence Tubiana, qui avait œuvré à l'accord sur la COP21.
Laurence Tubiana, vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a en plus une connaissance des sujets européens très très forte. Et
vous n'avez pas à vous prononcer, mais il y en a quand même une qui aurait plus votre préférence que l'autre.
Moi, je suis très proche et en tout cas très émerveillé des compétences qu'a développé Laurence Tubiana à la COP21, bien sûr, mais dans plein d'autres occasions au niveau européen et français.
Mathieu Arfelin, on va évoquer maintenant le dossier des sites Seveso, puisque nous sommes deux semaines après l'incendie qui a touché l'usine Lubrizol de Rouen-Renaud-Délice.
Et deux semaines après cet incendie, justement aujourd'hui, ce matin même, trois ministres sont en déplacement à Rouen, notamment pour installer un comité de suivi auquel vont participer des élus, des associations, des habitants, etc. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est l'une de ces trois ministres qui est en déplacement aujourd'hui, parle d'un comité de transparence. Est-ce que, à vos yeux, deux semaines après, le gouvernement peut revendiquer un vrai effort de transparence sur les conséquences de cette catastrophe de Rouen ?
Je crois que dans les premières heures et les premiers jours, il y a eu une communication sans doute un peu trop positive, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments. On disait aux gens de ne pas s'inquiéter, alors qu'ils voyaient ce panache immense, effectivement, ressenti à des centaines de kilomètres. Donc il y a eu un des problèmes sur la communication immédiate. Maintenant, depuis, les choses se mettent en place et c'est très bien. Moi, quand nous avions auditionné la semaine dernière la ministre Borne à l'Assemblée nationale, j'avais insisté pour qu'effectivement, il y ait la mise en place de nouvelles procédures d'information et de dialogue avec les citoyens. Et c'est, je crois, ce qui a été retenu là avec cette commission qui se met en place ce matin, parce que oui, il faut qu'on réinvente le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs.
Donc, ça doit ressembler à quoi désormais la communication après un incident comme on vient de le connaître.
D'abord, il faut la moderniser. Oui. Je crois que sur les premières heures et sur l'alerte aux citoyens, par exemple l'envoi de SMS immédiatement, ça c'est des choses qu'il faut pouvoir envisager, parce que là, les premières heures, les citoyens se sont sentis mal informés. Il n'y a pas eu de volonté de cacher, je crois, mais en tout cas, du coup, il y a eu une colère exprimée par les citoyens devant ce déficit d'information. Et puis maintenant, il y a la gestion de la crise, de l'après, les impacts sanitaires. On voit qu'il y a un suivi à long terme qui est mis en œuvre, c'est bien. Aussi l'application du pollueur-payeur pour que Lubrizol paye. Enfin, il y a l'engagement de 50 millions d'euros effectivement pour indemniser les agriculteurs. Donc, effectivement, qu'on profite de ce grave accident pour rénover notre réglementation et son accompagnement.
Est-ce que vous êtes surpris ou choqué que deux semaines après l'incendie, on ne connaisse toujours pas précisément la liste des produits qui ont brûlé ce jour-là ?
Alors, la liste, elle a été mise en...
Pour la partie Lubrizol, on sait que l'entreprise avait stocké 5000 tonnes dans une entreprise voisine. Et là, on ne connaît toujours pas les produits qui étaient dans les fûts.
Voilà, donc on nous dit que ces produits-là étaient moins dangereux, etc. Il faut qu'il y ait toute la transparence là-dessus. Et il faut aussi qu'on accompagne les citoyens et les acteurs, qu'on explique. Il ne s'agit pas de simplement juste mettre la liste en ligne. D'ailleurs, c'est quand même une des premières fois pour Lubrizol que ça a été mis en ligne. Donc, on fait des progrès. Mais il faut effectivement maintenant aller plus loin. Et puis, qu'on ait ces espaces nouveaux de médiation pour que l'ensemble des citoyens et des acteurs puissent être éclairés sur la dangerosité, sur ce qui a pu se passer, sur les risques à court terme, sur l'absence de risque ou pas à moyen terme. C'est tout ça qu'il faut mettre en place.
Encore quelques questions dans un instant sur l'avenir des sites Seveso en France. Il y en a un peu plus de 1300. Vous nous direz s'il faut par exemple commencer à envisager de les déménager plus loin des zones de population. Mais d'abord, l'actualité à 8h40, c'est avec Stéphane Milhomme sur France Info.
On peut bombarder si ceux qui nous ont aidés, ce sont des terroristes. Sur France Info, l'ambassadeur de la Turquie en France justifie l'intervention d'Ankara pour éloigner de sa frontière la principale milice kurde de Syrie, l'YPG. Un bilan d'Ankara fait état ce matin d'un premier soldat tué et au moins 39 personnes mortes côté kurde. Lubrizol accepte d'indemniser les agriculteurs victimes de l'incendie de son usine de Rouen. Plus de 450 éleveurs, dont la majorité est en Seine-Maritime. Et puis un fonds de solidarité de 50 millions d'euros indemnisera à terme d'autres secteurs de l'économie comme le commerce. La candidature de Sylvie Goulard recalée à la Commission européenne et cette réaction ce matin sur France Info pour l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts Marie Toussaint. C'est une victoire du Parlement européen et pour la démocratie européenne. Une bonne nouvelle selon elle de dire que l'on refuse les conflits d'intérêts en Europe. Et puis préavis de grève illimité dès lundi prochain chez Michelin. Première initiative des 620 salariés du site de La Roche-sur-Yon. La direction annonce la fermeture définitive de cette entreprise en Vendée fin décembre. Michelin proposera des solutions de reclassement ou un plan de départ volontaire.
France Info. Et tout est plus clair.
Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, est proche de Nicolas Hulot et toujours notre invité jusqu'à 9h. Ça vous fait sourire quand on vous présente comme ça ?
Non, moi j'aime Nicolas Hulot, mais oui. C'est vrai que c'est un compagnonnage de longue date, mais effectivement, mais ce qui m'a jamais pesé. Moi, ouais. Effectivement, très bien, il m'a beaucoup inspiré.
Ça permet, pardon, j'avais pas prévu de poser cette question, ça permet de rappeler que vous incarnez en quelque sorte l'aile verte de la majorité. Elle est toute petite encore, cette aile, hein.
En tout cas, il faut qu'elle progresse et il faut qu'on change de rythme sur la transition écologique. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on est au... Il faut qu'on fasse 3 à 5 fois plus. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les politiques du gouvernement, il y a ce changement de rythme très important ? Moi, je pense pas encore suffisamment. Ça, c'est clair.
Et vous êtes toujours aujourd'hui, Mathieu Orphelin, clairement dans la majorité, parce que vous publiez, publiez un livre qui s'intitule « Je ne marche plus ». Donc ça veut dire que vous n'êtes plus...
Oui, non, moi j'ai quitté La République en marche, à la fois le groupe à l'Assemblée et le parti, pour effectivement alerter, il y a d'ailleurs 6 mois.
Hein, et vous êtes toujours macroniste aujourd'hui ?
Non, moi je suis ni dans la majorité, ni dans une opposition, ni dans une opposition.
Il y a le en même temps et vous êtes dans le ni-ni, vous.
Non, moi je serai toujours à côté pour voter des avancées fortes sur la transition.
Alors prenons les choses dans l'autre sens, est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, s'est converti à l'écologie ou pas ?
En tout cas, dans les actes, dans la volonté affichée, notamment à l'Europe, c'est clair qu'il y a une volonté affichée par le président. Moi, ce que je dis depuis des mois, c'est qu'on ne retrouve pas suffisamment cette volonté dans les actes posés par le gouvernement. On est aujourd'hui en train d'étudier le budget à l'Assemblée nationale depuis le début de la semaine. Moi, je vois pas ce supplément d'investissement qu'il faudrait avoir pourtant pour la transition écologique. Donc, le plus important, j'entends bien le gouvernement nous dire on va à l'acte 2, c'est la transition écologique. Très bien, mais maintenant, c'est dans les actes et dans les lois qu'il faut le prouver.
Alors, les actes, on va en parler, la question du nucléaire dans quelques instants, celle des véhicules les plus polluants, puisque vous avez fait une proposition à l'Assemblée nationale. Encore un mot, pardon, pour terminer sur le chapitre des sites Seveso. Il y a 2,5 millions de Français qui habitent à moins d'un kilomètre d'une de ces usines classées à risque. Comment mieux les protéger aujourd'hui ?
Je suis pas sûr que le déménagement des sites que vous évoquiez tout à l'heure soit la solution la plus simple à court terme, hein, mais c'est vrai que c'est des sites qui ont souvent été construits il y a plusieurs dizaines d'années assez loin des villes et avec l'urbanisation très forte qui se sont retrouvés aujourd'hui au milieu de zones notamment pavillonnaires. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est voir si la réglementation est la plus adaptée possible. Il y a eu un certain nombre d'aménagements, de dérogations, d'assouplissements ces derniers mois. Il faut en faire le bilan, voir si il faut les maintenir ou s'il faut au contraire renforcer la réglementation. Et je crois que la commission d'enquête du Sénat, la commission d'information à l'Assemblée nationale vont pouvoir être utiles pour se poser sur ces questions-là. La prévention des risques technologiques, c'est évidemment un sujet essentiel pour les riverains, mais plus globalement pour l'ensemble des citoyens.
Mais c'est 1300 sites à risque, hein, c'est 1300 sites Seveso, il faut continuer à vivre avec, hein, il ne faut pas envisager de les fermer, on doit continuer à vivre avec.
Il faut vivre avec, mais avec sûrement des exigences renforcées sur la sécurité, sur l'information, sur le dialogue avec les citoyens.
Mathieu Orphelin, vous parliez du projet de loi de finances il y a quelques instants. Vous avez déposé ces derniers jours un amendement qui prévoit de taxer davantage les SUV qui cartonnent, on le sait, dans les ventes de voitures neuves. Est-ce que c'est, comme dirait Ségolène Royal, le retour de l'écologie punitive ?
Non, c'est tout sauf ça. Effectivement, les SUV, c'est des véhicules très gros. Il y en a qui vont jusqu'à 2 tonnes et qui représentent aujourd'hui pratiquement 40% des ventes. Mmh. En conséquence, les consommations des véhicules neufs sont repartis à la hausse depuis 3 ans. On est à peu près aujourd'hui à 110 grammes de CO2 par kilomètre, là où il faudrait être près de 95. Donc ça veut dire que nos dispositifs ne sont pas assez efficaces. Et notamment, nous avons proposé avec un certain nombre de collègues de prendre en compte dans le bonus-malus auto le poids du véhicule, ce qui permet de mieux prendre en compte aussi l'ensemble des impacts de ces gros véhicules. On n'a pas besoin d'un véhicule de 2 tonnes pour rouler en ville.
Mais ce qu'on comprend pas bien, Mathieu Orphelin, c'est qu'il y a déjà un malus pour les véhicules qui émettent trop de CO2, évidemment, qui est lié, ce qui est le véritable enjeu écologique. Pourquoi est-ce qu'il faut en plus surtaxer les véhicules au poids ?
Parce que il y a d'autres impacts que simplement les émissions de CO2 pendant que le véhicule fonctionne. Il y a, si on regarde toute l'analyse de cycle de vie du véhicule, effectivement, prendre le poids permet aussi de prendre en compte les consommations de matière, toutes les énergies qu'il a fallu, par exemple, pour produire la voiture. Donc, le CO2 ne résume qu'imparfaitement les impacts environnementaux des véhicules. D'où l'importance de mettre, pourquoi pas effectivement un malus sur les véhicules les plus lourds et pourquoi pas aussi un bonus sur les véhicules les plus légers.
Indépendamment de l'émission de CO2, les véhicules les plus lourds sont plus polluants.
Exactement. Si on calcule en analyse de cycle de vie sur l'ensemble de fabrication, utilisation et fin de vie du véhicule.
Parce qu'il faut davantage de matériaux pour les fabriquer.
Notamment. Voilà.
Parfait. Votre amendement, Mathieu Orphelin, a été rejeté.
Rejeté hier matin en commission des finances.
Hier matin, vous allez le remettre sur la table ou c'est enterré ?
Non, je crois que ce sujet-là, de comment on arrive à faire des véhicules qui sont moins impactants sur l'environnement, et d'ailleurs les Français et les citoyens, ils seront gagnants, parce qu'avec des véhicules moins lourds, moins émetteurs de gaz à effet de serre, ils seront gagnants parce que les
Mais factures... Mais ça nous renvoie à la question de votre poids politique aujourd'hui au sein de la majorité.
Ah ben là, moi, de toute façon, j'ai quitté la majorité.
Et du poids de l'écologie aujourd'hui dans la majorité macroniste.
Cet amendement, je le portais, mais il y avait aussi des députés de la majorité qui le portaient, avec lesquels on avait travaillé, Barbara Pompili notamment, Éric Alauzet. Donc, c'est pas un sujet de majorité ou d'opposition, c'est un sujet.
L'écologie n'infuse pas aujourd'hui au sein des macronistes.
Il faut que ça infuse plus, en tout cas. Donc, on voit qu'il y a la volonté de faire plus, mais c'est faire beaucoup plus aujourd'hui qui doit être l'objectif. Et c'est pas un objectif de la majorité ou de l'opposition. Ça mérite qu'on se rassemble sur ces sujets-là.
Et vous expliquez notamment dans votre livre que la majorité macroniste, à vos yeux, sur les questions de l'écologie, elle est trop réticente, trop lente, parce qu'elle est un peu dans la main des lobbies. Est-ce qu'en l'occurrence, le gouvernement est dans la main du lobby automobile lorsque votre amendement sur les SUV est rejeté ?
Faut qu'il y ait un dialogue avec l'industrie automobile. D'ailleurs, si on fait ça, si on arrive à faire qu'ils s'orientent plus rapidement vers des véhicules plus légers, moins émetteurs de gaz à effet de serre, ça va leur éviter aussi tout un tas de pénalités qui sont prévues au niveau européen pour les constructeurs qui ne respecteraient pas l'objectif de 95 grammes de CO2
aujourd'hui,
en 2021.
Aujourd'hui, le gouvernement est trop soumis au lobby de l'automobile.
Non, mais je crois que le gouvernement pourrait être encore plus volontariste pour l'accompagnement des constructeurs dans cette grande révolution que sont les véhicules moins polluants.
Il y a un mouvement, Mathieu Orphelin, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Il s'appelle Extinction Rébellion. Ce sont des activistes qui bloquent en ce moment les accès de plusieurs centres-villes, de grandes villes en Europe et ailleurs. Voici ce qu'en dit la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Tout ce qui est action pacifique permettant de montrer, de dire et d'obliger les responsables politiques à agir, tout ça évidemment que je soutiens parce que on ne s'en sortira pas autrement. Sur la place du Châtelet, l'action est totalement pacifique et par ailleurs le théâtre du Châtelet poursuit son activité sans aucun problème.
Est-ce que vous soutenez vous aussi, Mathieu Orphelin, cette forme de blocage pour alerter l'opinion sur le climat, sur la planète ?
Les actions de désobéissance civile, parce que là, c'est ce type d'action dont on parle. Moi, je crois, l'impératif absolu pour moi, c'est la non-violence. Ça, c'est évidemment essentiel. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi ces gens-là, notamment beaucoup de jeunes, ne trouvent finalement que ce type d'action. Parce que c'est leur angoisse devant, effectivement, le manque d'ambition des politiques qui sont mises en œuvre. Donc moi, j'essaye de comprendre, effectivement, ces mouvements-là.
Mais la question, c'était, est-ce que vous les soutenez ?
Si jamais c'est dans un contexte vraiment où il y a zéro violence, si c'est vraiment de la non-violence, je peux comprendre que des gens comme ça se mobilisent de cette façon-là. Parce que ils ont l'impression de ne plus avoir d'autre choix que ça pour se faire entendre. Et c'est là-dessus que les responsables politiques aussi doivent réfléchir.
Et en quoi, par exemple, le blocage actuellement de la place du Châtelet à Paris participe de la lutte contre le réchauffement
climatique ? Par exemple, Extinction Rébellion au Royaume-Uni a réussi, par les actions de mobilisation à Londres, à faire inscrire dans la loi britannique l'urgence climatique, pour vous donner un exemple très concret de ce qui s'est passé de l'autre côté de la Manche.
Il y a une forme de débordement aujourd'hui, pacifique évidemment, mais de la parole politique. On voit que c'est la voix d'une adolescente aujourd'hui qui porte sans doute le plus sur la question du climat, c'est Greta Thunberg. On voit aujourd'hui ses actions dans la rue pour parler du climat. Pour le politique que vous êtes, ça dit rien ?
Non, ça dit beaucoup. Ça dit effectivement, cette mobilisation formidable de la jeunesse, Greta Thunberg, mais les millions de jeunes qui sont dans la rue pour dire aux politiques et à tous les autres responsables, vous n'avez pas fait assez.
Mais qui
assez.
Vous disent aussi à vous et à nous, accessoirement, vous n'avez rien fait.
Vous n'avez pas fait assez. Ouais. Mais oui, mais il faut le reconnaître et il faut faire plus. La bonne réponse à cette mobilisation de la jeunesse, quelle que soit sa forme, effectivement, c'est de faire plus. Moi, c'est ça que je dis dans mon livre, c'est ça que je demande aux politiques aujourd'hui, c'est faire beaucoup plus pour le climat, changer de rythme et voir enfin la transition écologique en grand. C'est ce qui nous manque aujourd'hui.
Mathieu Orphelin, vous restez avec nous, on va parler dans un instant du nucléaire et de François Fillon, ce sont deux sujets différents évidemment. D'abord le rappel de l'actualité à 9h-10 avec Stéphane Milhomme.
Et un tanker iranien a été touché ce matin par deux frappes de missiles présumées à une centaine de kilomètres du port saoudien de Jeddah. Cette attaque provoque une fuite de pétrole dans la mer Rouge, selon son propriétaire. L'agence de presse iranienne cite des experts qui parlent d'un acte terroriste. Les États-Unis prêtent à jouer les médiateurs entre les Turcs et les Kurdes. Cinq pays européens, dont la France, réclament l'arrêt de l'action militaire unilatérale de la Turquie. Le ministre turc de la Défense parle, lui, ce matin de la mort d'un militaire turc en Syrie. Les frappes ont déjà causé la mort de 39 personnes, dont une dizaine de civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La santé, l'agriculture, la transition écologique, trois ministres attendus à Rouen, deux semaines après le violent incendie sur le site Lubrizol. Ils viennent installer aujourd'hui un comité de suivi sur France Bleu Normandie. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, promet que tous les éleveurs laitiers seront indemnisés pour leur perte de septembre. Ils ne perdront, dit-il, absolument rien. Et puis un conseil d'administration en urgence ce matin chez Renault. Le numéro 2, Thierry Bolloré, va être évincé. C'était l'an dernier encore le dauphin de Carlos Ghosn. Dans les échos, Thierry Bolloré dénonce un coup de force. La direction de Renault invoque une absence de résultats.
France Info. Et tout est plus clair.
Il s'était fait discret depuis son échec à l'élection présidentielle, mais François Fillon a donc fait son grand retour médiatique. C'était chez nos confrères de la chaîne suisse RTS.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté.
Et vous avez manqué, François Fillon, Mathieu Orphelin ?
Là, je crois qu'on est tous un peu tombés nés nus devant cette déclaration hier. J'arrive même pas à savoir si c'est de l'humour ou pas. Mais effectivement, si c'est de l'humour, c'est un humour douteux. Il y a eu, avec la crise des Gilets jaunes, un événement politique presque historique d'ailleurs, marquant en France. Donc je crois que le sous-estimer, mésestimer ce qui s'est passé, traiter ça avec la légèreté, mais peut-être que l'autorise le fait d'être en retraite politique, effectivement, mais voilà, des déclarations, j'ai trouvé assez hallucinantes de François Fillon hier.
Renaud Dely.
François Fillon, il y a eu une autre phrase aussi à propos du mouvement des Gilets jaunes. Il a dit dans cette même interview, en France, on fait la révolution, mais un jour par semaine, en l'occurrence le samedi. Ça veut dire, donc effectivement, il ne considère pas que le mouvement des Gilets jaunes soit très important. Vous, à l'inverse, vous jugez qu'on ne peut plus faire de la politique après ce mouvement comme on en faisait avant ?
Bon, en tout cas, c'est un mouvement qui, bien sûr, au fil du temps, a muté et est arrivé à la fin dans quelque chose qui était très loin des revendications initiales des Gilets jaunes. Mais en tout cas, la mobilisation de novembre dernier, etc., c'était quelque chose de très important qu'il faut entendre, effectivement, cette exigence.
Il l'a bien entendu et bien compris, Emmanuel Macron ?
J'espère. Je crois qu'effectivement, ça a été quand même une rupture nette. En tout cas, un certain nombre de mesures d'accompagnement social sont découlées directement de ce mouvement des Gilets jaunes. Je crois que oui, il va falloir, de toute façon, collectivement, que tous les hommes et les femmes politiques réinventent ce lien entre politique nationale et citoyen. Il y a un certain nombre d'outils qui se mettent en œuvre. La Convention citoyenne sur le climat, par exemple, la concertation sur la retraite, etc. Oui, il faut réinventer cette démocratie participative pour enrichir la démocratie représentative. Ça, j'y crois beaucoup. Et effectivement, c'est une des voies pour retrouver la confiance aujourd'hui quasiment rompue entre les politiques nationales et les citoyens.
Mathieu Orphelin, la facture de l'EPR de Flamanville a encore augmenté un peu cette semaine. Je dis un peu 1,5 milliard d'euros en plus, qui va, si la facture est désormais respectée, nous amener à un peu plus de 12 milliards d'euros quand cette centrale commencera à fonctionner. À ce prix-là, on continue pour voir ce que ça donne ou on arrête ?
L'EPR à Flamanville, c'est un désastre économique. Je crois que tous ceux qui nous disent le nucléaire, c'est l'énergie bon marché, etc. Là, sur Flamanville, on est pratiquement maintenant à 4 fois ce que ça devait coûter, rien que pour le coût d'investissement. Donc, c'est un désastre économique. Ça doit nous inciter à réfléchir. Une partie du gouvernement aimerait réfléchir à relancer un programme d'une nouvelle série de PR dans les années à venir. Je crois que l'expérience de Flamanville montre que l'argent à investir dans l'énergie, dans la transition énergétique, sera bien mieux investi dans d'autres types d'énergie, les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, le stockage de l'énergie, que dans des moyens de production comme l'EPR nucléaire. Donc je crois que à la lumière de ce qui se passe à Flamanville, il faut que le gouvernement en tire des leçons et ne pas relancer très clairement une nouvelle série d'EPR.
Pas de nouvelle centrale EPR, mais pour ce qui est celle de Flamanville, dont l'ouverture a été repoussée maintenant depuis de nombreuses années jusqu'à maintenant 2022, est-ce qu'on enterre le projet de Flamanville ou est-ce qu'on le mène à son terme ?
Je crois que au point où on en est, il faut sans doute continuer à le mener, mais en espérant qu'on va pas aller de mois en mois d'augmentation de délais, d'augmentation de coûts, etc. Mais 12 milliards, plus de 12 milliards, imaginons qu'on ait investi cet argent plutôt dans d'autres types d'énergie.
Vous écartez une nouvelle génération de réacteurs nucléaires à terme, mais est-ce
Moi, je l'écarte, mais le gouvernement ne l'écarte pas pour l'instant. C'est bien mon problème.
Vous y êtes hostile, mais est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique et sortir à terme du nucléaire ?
Oui, bien sûr, on peut faire les deux. C'est très important.
L'exemple allemand n'est pas probant en la matière. L'exemple de l'Allemagne, qui est sortie du nucléaire il y a quelques années, n'est pas probant.
Contrairement à ce que disent les gens, leurs émissions globales de CO2 n'ont pas augmenté. Elles ont continué à diminuer. Mais oui, on peut le faire. Pour ça, il faut investir beaucoup plus qu'aujourd'hui dans la maîtrise de l'énergie, dans l'efficacité énergétique, dans la rénovation énergétique des logements. Ça, c'est très, très important. Effectivement, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait en France aujourd'hui là-dessus. Et deux, il faut développer dans le même temps les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie sur lequel on commence là aussi à y aller. Mais la France et l'Europe pourraient faire beaucoup plus. Et effectivement, il y a tout un tas de scénarios qui montrent qu'en investissant massivement sur ça, on peut effectivement réduire de beaucoup la part du nucléaire tout en faisant que nos émissions de CO2 décroissent au bon rythme pour relever les défis climatiques.
Et vous espérez encore convaincre Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, il est le président qui peut entraîner la France sur la sortie du nucléaire, à vos yeux ?
cas, il a donné un objectif de 50. Oui, bah parce que lui, je suis pas sur sa position sur le nucléaire, très clairement. Bon, là, on vient de repousser l'objectif de 50% de nucléaire à 2035. Moi, je crois que sur ces sujets-là, on pourrait aller plus vite.
Merci à vous, Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, ancien membre de La République en marche, d'avoir été ce matin sur France Info. Dans un peu plus de 2 minutes, il sera 9h sur France Info, radio et télé réunis. L'invité politique, c'est désormais 7 jours sur 7 à la radio et à la télé. Rendez-vous chaque matin, 8h30. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.